Les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
Deadwood arrive tardivement sur nos écrans européens, semble-t-il. En fait, Deadwood semble avoir fait peur. Sur le site télé.ado.fr, on nous apprend que Canal+ l'avait déjà acheté l'an dernier, mais que le directeur des programmes, gêné par la petite vertu qui s'en dégageait, l'a programmé à 3h40 du matin. Heureusement, les fans ont fait pression et la série a pu trouver une heure de diffusion plus convenable pour nous présenter cette série, Calamity Sarah.
Ah, oh, c'est gentil, parce que là, tu fais référence à mon personnage préféré de la série, qui est Calamity Jane.
Pourtant, c'est pas le personnage le plus reluisant. On en parlera peut-être plus tard.
À mon avis, oui, on y reviendra. Alors, la série débute absolument pas à Deadwood, qui est le nom d'une ville, mais dans le Montana. Et en fait, on suit la dernière nuit de Seth Bullock, qui était shérif là-bas, donc sa dernière nuit en tant que shérif. Et il espère bien repartir à zéro à Deadwood. On comprend très vite qu'en fait, sa charge de shérif lui pèse plutôt. Qu'il trouve que la justice n'est pas facile à rendre, et c'est vrai qu'il est à peu près seul contre tous, seul contre les voleurs de chevaux, mais aussi seul contre les propriétaires de chevaux qui veulent se faire justice par eux-mêmes. Donc, il repart pour Deadwood avec son pote et associé, Solstar, pour devenir un quincaillier. Deadwood, c'est une ville, en fait, qui existe réellement aux États-Unis. Custer, le général, y a découvert en 1864 de l'or, mais le gouvernement n'a rien dit pour ne pas qu'il y ait plein de pionniers chercheurs d'or qui arrivent dans la ville, parce qu'il faut savoir que c'était une ville en territoire indien. Maintenant, 10 ans plus tard, la série se passe en 1876, la situation a bien changé. D'abord, les États-Unis sont en crise après pas mal d'années difficiles, et en plus, les relations avec les Indiens, on commence à en avoir un peu marre, et l'idée, c'est plutôt de les massacrer. Donc, le gouvernement fait lancer la rumeur comme quoi il y a de l'or à Deadwood, et plein de chercheurs arrivent. Pour la petite histoire, il paraît que le nombre d'habitants de la ville en 6 mois est passé de 0 à 10 000. Vous voyez un peu le genre d'immigration qu'il y a pu y avoir dans l'endroit. La série débute à ce moment-là, une semaine après le massacre de Little Big Horn, où Custer est mort face aux Indiens. C'est en fait la dernière fois que les Indiens pourront réellement montrer leur force d'armes. Le même jour arrive à Deadwood Seth Bullock, donc notre ex-shérif, Solstar, qui est son collègue quincaillier, mais aussi Charlie Hutter, Calamity Jane et Wild Bill Hickok eux-mêmes.
Du beau monde, c'est quand même des stars des États-Unis, on va dire.
Même des mythes, on va dire. Et déjà, à l'époque, Calamity Jane et Wild Bill Hickok sont des mythes. Évidemment, leur arrivée ne passe pas tout à fait inaperçue dans la ville. Elle déchaîne les passions et les jalousies, malheureusement, pour Wild Bill Hickok, qui se fera tuer à Deadwood. La ville attire autant de gens, en fait, parce qu'elle n'est toujours pas rattachée au territoire des États-Unis. Elle est toujours officiellement sur territoire indien. Et donc, il n'y a aucune loi. Et tout le monde peut donc faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et c'est évidemment ça qui attire tous ces gens-là, en plus de l'or. Durant la première saison, on fait la connaissance un peu du monde qui arrive à Deadwood. Alors, je vous l'ai dit, on a d'abord Seth et Solstar qui sont les quincaillers. On a les trois acolytes, Charlie, Jane et Wild Bill Hickok, qui eux viennent là. Charlie voudrait monter une nouvelle entreprise de transport, de frais et de courrier. Jane, en gros, elle passe sa vie à boire et donc elle se dit pourquoi pas boire là non, et pas ailleurs.
Tant qu'à faire.
Ça ne changera rien. Et Hickok, il va pour jouer parce qu'évidemment, comme il n'y a pas de loi, le jeu est tout à fait légalisé et il veut se refaire une petite santé financière. On comprend assez vite qu'il adore jouer, probablement il adore perdre et qu'il est là aussi pas nécessairement pour se faire du bien. Je trouve que c'est un personnage assez suicidaire.
Donc concrètement, c'est deux figures américaines qui sont un peu remises dans leur contexte réel, quelque part.
Ouais,
on les fait descendre de leur podium.
De leur piédestal, ça c'est évident. Et l'un des scénaristes disait que finalement, David Milch a voulu vraiment s'attarder non pas sur la légende qui colle à ces personnages, mais sur la réalité du terrain. Or, les villes du 19e siècle devaient se ressembler à ça. Et les légendes, il faut savoir que Wild Bill Hickok a été évidemment un shérif et un bon tireur, qu'il a été un soldat pour Custer notamment, et de nouveau, il s'est fait une légende de fin tireur dans l'armée. Mais qu'après ça, il est devenu une bête de cirque et aussi quelqu'un qui buvait et qui jouait. Donc on est probablement vers quelque chose d'assez réaliste. Face à tout ce beau monde, on trouve Al Swearengen, qui est le propriétaire du saloon majoritaire de l'endroit et qui dirige en fait la ville, l'air de rien. Il a plusieurs acolytes, Dan, Farnum, et évidemment autour de lui on retrouve pas mal de prostituées, dont Trixie qui est un peu sa régulière. On a aussi le docteur Cochrane, le journaliste Merrick, le révérend Smith et un couple de New-Yorkais très riches, les Garrett, qui sont venus là pour acheter une concession minière et donc faire fortune. Évidemment, durant la première saison, puisque la ville passe de 0 à 10 000 habitants, on ne cesse d'avoir des nouveaux arrivants. Les plus emblématiques dans la série sont les tenanciers du nouveau saloon, le Bella Union, Cite Oliver, Joanny Stubbs et Eddie Sawyer, qui ont des histoires un petit peu louches entre eux et avec les autres. Tout ça doit évidemment s'organiser. On apprend que le gouvernement ne va pas laisser cette ville hors la loi très longtemps, et donc ils décident d'eux-mêmes d'organiser les autorités de la ville, donc de choisir un maire, un chef des pompiers, etc. etc.
Et de placer de préférence des hommes qui leur sont proches.
Voilà, des hommes proches et de contrôler évidemment l'affaire. Seth Bullock peut paraître comme le héros, puisque finalement c'est avec lui qu'on débute la série, c'est lui qu'elle a le plus souvent. Il représente un peu les valeurs habituelles du western, c'est un shérif honnête qui aime la justice, etc. On se rendra très vite compte qu'il faut faire attention aux apparences et que s'il s'oppose à Al, évidemment, le méchant de service, on se rend compte très vite que Al peut avoir de la morale lui aussi, notamment parce que déjà il aime Trixie et qu'on se rend compte que quand elle n'est pas là, il est tout perdu, mais aussi parce qu'il s'occupe de gens comme le révérend, par exemple, qui agonise et que donc il a un bon fond quelque part. D'un côté, Seth est un personnage que je trouve moi personnellement continuellement en colère. Il a l'air d'avoir une rage contenue, on ne sait pas très bien comment, pourquoi, il a repris la vie de son frère, enfin, on ne sait pas très bien qui est ce gars. L'acteur qui le joue le décrit comme un personnage dangereux, donc on peut parfois se demander si c'est vraiment un héros.
En tout cas, en l'état, moi, ce que j'en pense, c'est que c'est l'un des personnages les plus creux de la série. C'est pas le plus intéressant, en tout cas.
C'est vrai que face à Calamity Jane, il paraît un petit peu lisse. Alors, il faut savoir que plein de personnages secondaires vont s'étoffer et que finalement, on n'est pas face à un héros, mais on est face à un groupe de personnages vraiment importants. Alma, qui va devenir la personne la plus riche, donc c'est la femme new-yorkaise dont je vous parlais, et son mari va mourir, et en fait, sa concession est une bonne concession. Le docteur, qui finalement est le seul qui peut donner des ordres à Al, et on se demande un petit peu d'où lui vient ce pouvoir. Et Jane, qui est un personnage que j'adore, Calamity Jane, qui n'est plus une fine gâchette quand on la trouve à Deadwood, qui est sous la longueur de journée, qui ne cesse de jurer et de gueuler sur tout le monde, et qui en fait a elle aussi un bon fond, parce que c'est la meilleure amie de Wild Billy Cox, c'est elle qui s'occupe de Sophia, une petite orpheline, et c'est elle aussi qui s'occupe des malades de la petite vérole parce qu'elle est immunisée.
Dieu du ciel!
Je vous ai flogué la trouille.
Oui, où étiez-vous passé? Encore, allez boire.
J'ai picolé pas mal, c'est vrai, et puis après, ça vous regarde?
Ça partait d'un bon sentiment. Si vous étiez paysanne, je vous demanderais, alors ça va à la ferme?
C'est que j'ai quand même perdu mon meilleur ami, vous savez.
Je sais.
Enfin bref, je suis pas là pour vous apprendre les manières. Je voulais savoir comment allait la petite.
Elle va bien.
Et quoi d'autre?
Et elle habite avec cette veuve et une fille du Jem est avec elle aussi.
Qu'est-ce qu'une putain fout avec elle?
La veuve a quelques problèmes de santé et Trixie s'occupe d'elle.
Ah, oh, et Trixie c'est cette foutue putain.
Vous avez des critères élevés quand ils s'appliquent à d'autres personnes.
Je juge pas. Je voulais juste une information.
Oui. Vous êtes suffisamment informé.
Oui, ça va, espèce de salaud.
Je suis au beau milieu d'une crise grave.
Petite vérole.
Comment vous êtes au courant?
Un gars dans les bois à qui je disais bonjour l'a attrapé. Si c'est pas une truite qui lui a filé, je me suis dit qu'il y en avait peut-être d'autres qui l'avaient attrapé en ville.
Et qu'est-ce qu'il fait dans les bois?
On l'a jeté là-bas. Enfin, il va mieux maintenant.
Et comment vous vous sentez?
Qu'est-ce que ça veut dire?
Et comment vous vous sentez?
Pourquoi?
Je crois que ça va. Vous vous sentez bien maintenant, je ne me trompe pas.
Non, vous vous trompez pas.
Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir.
Je pourrais vous mettre KO si je voulais rien qu'en vous regardant.
C'est bien ce que je veux dire. Vous avez pris soin d'un homme malade qui ne semble pas vous avoir contaminé.
C'est un vieux hibou plein de sagesse.
Étant donné que vous avez un don dans le domaine et que je vais bientôt avoir des malades plein les bras, je me demandais si vous aviez envie de revenir en ville.
Mon meilleur ami est mort.
Et il ne reviendra pas. Alors, vous allez m'aider. Vous pourrez boire en dehors des heures de travail comme je le fais.
Il y a bien une partie d'humour dans Deadwood.
Ça n'est pas que du western, et d'ailleurs, est-ce que c'est un western ? Bonne question à deux francs. Alors, qu'est-ce que c'est le western ? Selon Christian Gonzalez, il dit que le western, c'est finalement la chronique de l'Ouest, un récit qui retrace les grands épisodes saillants de la conquête, c'est-à-dire la migration des pionniers, les guerres indiennes, les ruées vers l'or, vers les terres, l'affrontement des shérifs dehors la loi, la guerre de sécession et ses séquelles. Donc, c'est pas uniquement les cow-boys. Donc le western s'appuie sur des éléments réels, l'espace, donc on est bien dans l'espace américain, dans l'ouest, sur un temps réel qui s'étend de 1840 au premier convoi qui part au-delà de la frontière des 13 États, vers 1890 à peu près, en tout cas vers les premières années du XXe siècle, où on considère qu'on est arrivé au Pacifique et que tout le territoire est connu. Mais le western n'est pas une fiction réaliste nécessairement. On a souvent reproché notamment le manichéisme, les bons cow-boys contre les mauvais indiens. Une simplification que, selon Christian Gonzalez, est normale puisqu'on est face à une épopée moderne. Et qui dit épopée dit simplification. Le western passe d'abord dans la littérature, dans les romans de guerre évidemment. Enfin, les romans de guerre à l'époque, ça n'existe pas, mais les romans pas chers, on va dire.
Les romans de calèche.
Voilà, si tu préfères. C'est la littérature populaire qui fixe d'ailleurs les archétypes du genre et qui... met en place le mythe du western qui passe principalement sur trois choses, le décor, les personnages et la panoplie. Le décor, c'est évidemment le pays avec ses grandes prairies, les montagnes et les canyons. Tous ceux qui regardent le cinéma le savent et voient à quoi je veux faire allusion, mais aussi des lieux emblématiques comme le saloon, le bureau du shérif, le magasin, etc.
Cette grande rue très large avec de chaque côté des maisons en bois très
voilà.
Hautes.
Or, du côté des personnages, on a le héros typique qui est le cow-boy, c'est-à-dire un héros qui, en gros, combat l'anarchie des territoires non civilisés, c'est-à-dire qu'en gros, il s'attaque à l'Indien ou aux voleurs de chevaux, etc. Mais c'est aussi un héros qui porte un récit initiatique, le récit initiatique de toute une nation, finalement. À côté de ça, on a aussi des figures incontournables. On a le méchant, c'est-à-dire le voleur de banque, le voleur de chevaux. On a évidemment l'Indien, la fille de saloon, la femme de fermier, le fermier, etc. Il y en a plein. Le cow-boy est le plus emblématique, probablement, mais c'est pas le seul. Vous voyez, par exemple, Charles Ingalls, qui n'est pas tout à fait le cow-boy typique.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, on a aussi le dernier lieu commun, c'est la panoplie. Évidemment, le western, c'est d'abord une affaire d'armes. La Winchester, par exemple, ou le Colt 45, principalement. On doit aussi citer le cheval, évidemment, qui est le moyen de locomotion et souvent le seul compagnon du héros solitaire, qui remplace souvent même la femme dans le cœur du héros. Et on a évidemment l'habillement très codé qui permet de distinguer très vite à qui on a affaire. Un cow-boy, il a le Stetson, les bottes, les éperons. Le militaire, il est habillé en nordiste ou en sudiste. L'Indien, il a des plumes, évidemment. Le joueur professionnel est habillé comme Maverick, en costume trois pièces. On a la fille de saloon, etc. J'ai pas besoin de vous faire des ça non plus. Alors évidemment, après ça, on passe au cinéma, et c'est au cinéma que le western prend toute son ampleur. Je ne vais pas vous faire l'histoire du western au cinéma, sinon on y est encore bientôt. Simplement, au cinéma, c'est d'abord le western classique avec le cow-boy, le bon, et les indiens, les méchants, qui sont d'abord mis en scène. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique se pose des questions sur ce mythe, et on en arrive à se poser même des questions vis-à-vis de ce grand manichéisme, et c'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a le premier western qui réhabilite l'indien, finalement, avec la flèche brisée de Delmer Dave. Alors, je vous parle pas de western spaghetti, sinon on est encore là dans quelques instants. Simplement, après ça, le western commence à s'atténuer. On a à peu près Danse avec les loups avec Kevin Costner il y a pas très longtemps, mais le western n'était plus un genre en vogue.
On a le retour avec Brokeback Mountain il y a quelques semaines.
Mais c'est un bon exemple parce que finalement on parle de western crépusculaire où justement les héros sont des héros totalement décalés ou alors qui montrent bien que le western est quelque chose de décrépit, donc qu'ils sont vieux, leurs carabines sont rouillées, ils se posent des questions, etc. etc. Et finalement, Deadwood est assez bien dans cette progression-là, je trouve, du western crépusculaire. Sur écranlarge.com, Sandy Gillet dit même que finalement, dans Danse avec les loups, on a un héros témoin de la fin d'un monde, mais que Deadwood participe à la fin d'un monde. La série prend des distances avec le genre. D'abord, on n'est pas face à un héros sans reproche, on est face à des commerçants. Évidemment, les commerçants, ça peut être un propriétaire de saloon ou un journaliste, par exemple. Les filles sont importantes parce que finalement, on a trois femmes fortes dans cette série. On a Alma, qui est la personne la plus riche de la ville. On a Trixie, qui est la régulière de Hal, mais qui est finalement une des rares personnes qui peut lui dire aussi ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et Jane, qui malgré tout, tient tête aux hommes. Alors peut-être qu'elle tient tête dans l'alcool, mais en tout cas, elle est aussi bonne que les hommes dans l'alcool. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, on a aussi des mythes complètement dégradés. Hickok, Jane et même Seth Bullock, qui est le shérif finalement, puisqu'il le devient mais malgré lui, c'est quelqu'un de malsain. Donc on est face à des mythes dégradés. Les thèmes sont aussi un peu différents. Il n'est pas question ici de tuer l'Indien ou de tuer le voleur de chevaux, mais on est bien face à l'établissement d'une autorité dans une ville qui est sans foi ni loi, et on regarde un peu les relations entre tous ces personnages qui sont venus là, grosso modo, pour repartir à zéro, généralement, ou alors ils ont des motivations pas très claires. On se rend compte que l'Ouest, c'était plus un cloaque qu'autre chose. Deadwood est une ville qui s'englue dans la boue, littéralement, qui s'englue dans la vérole, d'ailleurs, c'est pas pour rien. Les gens boivent, tous. Les jurons de Calamity Jane ne sont qu'un exemple de la grossièreté qui est dans cette ville.
Même l'image, le rendu à l'écran a l'air sale, je trouve. Ouais. Tout est boueux.
Voilà, et à mon avis, ça, c'est plus de la réalité historique qu'autre chose. Alors, Deadwood est réel. C'est une ville qui a réellement existé. Et d'ailleurs, l'épisode des Black Hills et, qui appartenait aux Indiens et le fait que Custer soit mort et le fait qu'il y ait de l'or et que le gouvernement n'a rien dit, tout ça, c'est vrai. Le fait aussi qu'il y ait eu des casinos, et il y en a encore maintenant d'ailleurs, puisque Deadwood est une des trois villes américaines où le jeu est légalisé et donc il y a encore des casinos. Et donc depuis toujours, cette ville tourne autour de l'idée d'argent et d'enrichissement rapide. On a même des personnages réels. Alors c'est vrai, on a Hickok, Jane et Charlie Hutter, mais en fait Bullock, Starr, Hal, Farnum, Merrick, tout ça sont des personnages qui ont réellement existé. Bon, je ne dis pas qu'ils étaient tels quels, hein. Et d'ailleurs, David Milch a dit « Moi, je ne fais pas un docudrama ». Certains critiques ont justement dit qu'il avait pris trop de liberté avec la réalité. Il a dit « Je suis désolé, moi, je ne fais pas du docudrama ». Ce qu'il lui reprochait, c'est d'avoir centralisé beaucoup sur quelques personnages. Parce qu'il faut savoir que David Milch est allé lire le journal de l'époque. Donc, a lu le Black Hills Pioneer pour savoir ce qui s'était passé dans la ville, etc. Et pour s'imprégner un peu de ce qui était arrivé réellement, des noms des personnages pour la créer. Il faut savoir que David Milch aime beaucoup la réalité. C'est lui qui a créé Captain Furillo, New York Police d'État avec Steven Bochco et Brooklyn South. Et donc, ce sont déjà des séries qui sont très marquées par la réalité sans nécessairement faire du docudrama. C'est toujours le cas ici. Le décor utilisé est d'ailleurs très important parce que Greg Finberg, qui est donc le coproducteur, sur le site de HBO, dans une interview, dit qu'en fait, David Milch a des idées de scénario rien qu'en se baladant sur le plateau, qui est un plateau immense et qui a demandé pas mal de moyens. C'est un décor aussi en construction et ils ont fait exprès de jouer dans ce décor en construction. On a souvent l'impression, tiens, ce bâtiment-là n'était pas là l'épisode dernier. C'est pour signifier justement l'expansion incroyable qu'a connue la ville. Et donc du coup, ils ont tourné la série dans le décor en train de se construire. Ça posait d'ailleurs quelques problèmes vu que les équipes de tournage, quand elles s'arrêtaient, les équipes de décorateurs continuaient à monter des trucs et que c'était pas toujours évident.
Ça pose aussi parfois le problème de se dire où est-ce que je suis. Oui. On est un peu perdu, on ne sait pas très bien comment on se situe. Pourtant, il y a une grande rue et des bâtiments, à peu près. C'est tout ce qu'on voit généralement. Et on est quand même perdu, c'est quand même assez paradoxal.
Et il y a d'ailleurs de plus en plus de rues à la rue des Chinois qui apparaît. Oui, c'est assez perturbant, mais ça a dû l'être à l'époque aussi. En 6 mois, 10 000 habitants, j'imagine, ça n'a pas dû... Alors, le réalisme passe aussi par le langage utilisé. Alors là, on a parlé des jurons, notamment, que les critiques ont absolument détesté, sauf certains. Tom Chase, par exemple, du Washington Post, trouve que, à force de jurons, il dit, en fait, ça n'arrive jamais qu'un personnage dise « j'ai faim ». Il faut qu'il y ait des jurons bien connus qui se glissent entre le premier et le troisième mot. Il dit, à force, on s'habitue, et ça en devient presque lyrique. Je lui parle d'obscénité lyrique ou quelque chose comme ça, je trouvais ça assez rigolo. Mais au niveau du langage, ceux qui l'ont vu en VO ont dit qu'en fait, ils étaient face vraiment à ce qu'on peut retrouver dans les premiers bouquins de western, donc les premiers bouquins écrits au 19e siècle, et que Milch a le don de pouvoir utiliser à la fois des vieux mots et les remettre dans des choses qu'on comprend actuellement. Il faut savoir que je trouve cette série totalement convaincante. Moi, je vous conseille vraiment de regarder Deadwood. C'est une série pas facile parce qu'il y a énormément de personnages et qu'au début ça suppose de les installer et que donc le début est assez lent. Pour la petite histoire, moi je prends énormément de notes quand je regarde une série télé. J'ai pas une seule ligne de notes avant la mort de White Billy Cook qui se passe au 4e épisode. Donc pendant 4 épisodes, j'ai juste capté l'ambiance quelque part. Mais finalement, quand on a compris que l'importance est les relations humaines au sein de Deadwood et la manière dont justement on s'organise pour ne pas s'entretuer, finalement on est tout à fait accroché. Et il faut finalement comprendre que regarder Deadwood, c'est comme jouer au poker. Et ça suppose qu'on a quelques cartes en main, mais pas toutes. Et ça suppose que le gars en face est peut-être en train de bluffer, mais peut-être pas. Et une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas tout comprendre, alors on se laisse assez bien prendre au jeu, je trouve. Et finalement, je trouve que ça ressemble un peu à Twin Peaks. Là aussi, on était face à une communauté où on ne savait pas très bien qui avait quelle motivation et on découvrait petit à petit les choses. Donc on est finalement dans le même genre de mécanisme et d'ailleurs Craig Finberg et Tev faisaient partie de l'équipe de Twin Peaks, ceci explique peut-être cela.
Oui, cette beloque.
Pourquoi avez-vous laissé Stapleton être shérif?
Ça y est, il a prêté serment.
Descendez trinquer avec eux. Merrick vous prendra peut-être même en photo.
Non, je préfère de loin écouter ce putain de révérend Smith prêcher les chevaux et les taureaux.
Ce n'est pas bon pour la ville. Ma femme et mon fils seront bientôt là.
Belloc, c'est que du vent tout ça. C'est honorifique, c'est pour rassurer Tom Nuttall. Il se sent dépassé par les événements. Stapleton au poste de shérif, ça lui donne l'impression d'avoir des amis haut placés.
Vous avez confié le maintien de l'ordre à un connard.
Eh bien, c'est parfait, le maintien de l'ordre, c'est un boulot de connard, ça tombe bien.
Pas forcément.
Non. Monsieur Belloc, asseyez-vous un instant. Je voudrais vous parler de la loi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, asseyez-vous. En plus de tous les pots de vin qu'on paye, comme vous le savez, j'ai payé $5,000 afin de ne plus être la victime d'une légende qui me présente comme un meurtrier. Mais je travaille très dur pour que cette ville soit annexée aux États-Unis, de sorte que la loi y soit appliquée, qu'il puisse venir me présenter le mandat et que je puisse graisser la patte de ce fumier de juge. $5,000 y sont déjà passés et il m'a envoyé un message. Il faut que je lui en verse davantage si je veux qu'il me laisse tranquille. La voilà, la loi.
Ça ne doit pas être forcément comme ça.
Si c'est vous qui étiez shérif, et que vous disiez « faites ci, faites ça », là j'y réfléchirais parce que vous, vous n'êtes pas invendu.
J'ai des responsabilités personnelles.
J'aurais assisté à votre prestation de serment et je vous aurais soutenu parce que vous êtes le genre de casse-couille à croire que la loi peut être honnête.
Je ne veux pas.
Il y a tout un tas de choses que je veux pas, moi non plus.
Vous croyez que vous êtes le seul?
Vous étiez pas là quand Tom Nuttall est venu me rabattre les oreilles. Je crois que vous feriez un bon shérif.
Écoutez, si je suis là, c'est uniquement parce que mon associé s'envoie cette pute. Au revoir.
L'une des attractions phares de la série Deadwood, c'était bien entendu Calamity Jane. Pour la deuxième saison, elle est de retour, mais pas uniquement.
Non, mais franchement, je me suis demandé ce que j'allais vous raconter. C'est pas courant hein, que oui. Je me retrouve bouche bée. Donc j'ai repris mes notes et rien. Donc je me suis un peu interrogée. Comment ça se fait qu'une saison que j'ai pourtant adorée sur le moment, j'ai plus rien à raconter après. Alors bon, je me suis un peu gratté la tête et je me suis dit, on prend les mêmes et on recommence. Et en effet, on retrouve les personnages, la boue, les rues encombrées, Bullock, qui maintenant était cartelé entre Alma, vous vous souvenez, hein, sa maîtresse, et Martha qui est son épouse, qui a débarqué avec son fils William. Trixie qui, elle, semble hésiter entre son rôle de prostituée alliée à Al et la vie que pourrait lui proposer Solstar. On retrouve aussi Joanie, qui ouvre son propre bordel, mais ça veut pas dire qu'elle est détachée de Saïd Oliver. On retrouve Charlie, qui est maintenant l'assistant du shérif. Des amitiés qui naissent, c'est parfois très étonnant, entre Alma et Trixie, Joanie et Jane, donc Calamity, et certains personnages qui deviennent plus importants que dans la saison 1, par exemple Ellsworth, ce qu'on n'attendait pas vraiment en époux bourgeois. Mais bon, je vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe dans cette saison non plus, et puis c'est déjà le premier problème finalement avec Deadwood, soit on en dit trop, soit on en dit pas assez, mais il n'y a pas de juste milieu finalement, les intrigues sont tellement touffu que c'est pas toujours évident d'en parler.
Rassure-moi, t'avais pas grand chose à dire, mais la qualité est toujours
Oui, ça, la qualité est toujours au rendez-vous, et y compris cette atmosphère qu'on adore dans des trucs, tu vois ce
et,
que je veux
et
dire.
Et les jurons de Calamity Jane.
Oui, les jurons.
Est-ce qu'ils vont encore plus loin dans la saison hein?
J'ai lu plusieurs critiques sur internet où c'est devenu le cockshaker show. L'atmosphère est encore là, on a toujours cette impression de ville qui vit sur elle-même. Maintenant, ça se dissipe un peu, parce que la ville donc doit se rattacher bientôt aux États-Unis. Donc effectivement, on sent qu'on s'ouvre vers l'extérieur et que l'extérieur entre petit à petit.
Notamment par l'intermédiaire du télégraphe.
Ouais, j'allais justement le dire. C'est symbolisé par ce télégraphe que Al Swearengen déteste dès le début. Et donc évidemment, de nouveaux personnages viennent encore compliquer ce côté faux-semblant, mensonge, intrigue compliquée, association secrète qu'on avait déjà à Deadwood. Les politiciens qui viennent de l'extérieur sont finalement pas mieux que Al Swearengen. On a un espèce de psychopathe complètement déjanté, Francis Walcott, qui vient démontrer que finalement, la ville n'avait pas encore atteint le comble de l'horreur. Et l'industriel, George Hurst, nous semble montrer que Al Swearengen pourrait être un enfant de cœur comparé à d'autres gars. Vous avez compris que je vous parle beaucoup au futur, là, de nouveau. Donc, cette ville est toujours en attente du moment des rattachements aux États-Unis, qui était finalement déjà le nœud de la première saison. Et là, peut-être, je vous ai parlé des mêmes personnages, je vous ai parlé de la même atmosphère, de toujours cette atmosphère d'attente, que c'est toujours aussi bon, mais finalement c'est peut-être ça aussi le problème. Peut-être qu'on est dans un statu quo qui fait que bon, ouais, et quoi. Et ne vous méprenez pas, parce que je veux pas faire la snob parce que j'ai pris des mauvaises notes non plus. Cette saison est toujours aussi bien. Comme tu le dis, on rit énormément, on retrouve les personnages très incroyables, une situation intéressante, des vocabulaires fleuris et évidemment Calamity Jane dont j'ai pas parlé, mais ça reste le personnage phare de, selon moi, de cette série.
Et la série va assez loin quand même, les deux derniers épisodes sont très très hard.
En effet, mais je veux pas en parler, sinon ça n'a aucun intérêt de regarder le truc.
Ça donne envie aux gens peut-être de regarder, ouais. d'aller voir plus loin.
Ça c'est évident, et en tout cas c'est la position que moi je vais avoir. Je vais me dire que je vais attendre de voir cette troisième saison avant de me prononcer, parce que j'ai l'impression, et là je reprends les propos de Lisa Schmeiser sur le site tv.org, qui dit qu'en fait elle a l'impression que les scénaristes savent exactement où ils veulent aller et comment y arriver, et qu'entre-temps, ils aimeraient bien que le téléspectateur s'amuse, et elle a peut-être pas tort. Peut-être que finalement, cette saison et la série en entière, on ne pourra les lire que quand on aura la fin. Ce moment de rattachement aux États-Unis, peut-être que c'est ça la fin. Et donc, je vous disais aussi qu'au début de la première saison, que Deadwood, c'est un jeu de poker dont certains bluffent. Il serait temps qu'on voit les jeux étalés pour pouvoir simplement se prononcer.
Bonjour.
Oui, madame.
Direct au Bella Union, comme un papillon sur une putain de flamme.
Mademoiselle Stubbs n'a pas précisé sa destination.
Mais moi, je te dis que c'est là qu'elle va. Et pourquoi tu ne cherches pas un travail honnête?
Mademoiselle Stubbs considère ce boulot-là comme honnête.
Elle a autant besoin d'un veilleur de nuit que d'une putain de montgolfière. Et pourquoi les enfants du camp devraient farcir le spectacle de ta tronche de crapaud pour recevoir une éducation?
Quand ils arrivent pour l'école, je suis là-bas derrière, hors de leur vue.
Comme ça, ils sont morts de trouille quand ils vont au cabinet.
Va te bourrer la gueule, Jay!
Ne me dis pas à quoi je dois passer ma journée! J'ai un emploi du temps chargé, moi! Contrairement à d'autres! Espèce de grosse baleine de mes couilles!
Deadwood saison 3. C'est formidablement écrit, c'est formidablement bien joué, c'est drôle, émouvant et crispant quand il y a des scènes violentes, mais...
Je sentais le mai arriver.
Où veut-il aller? Eh bien, je n'ai pas plus de réponse à la fin de la saison 3. Je me demande vraiment ce qu'il veut nous raconter. Alors c'est vrai, souvenez-vous, au début de la saison 1, l'idée était de nous montrer une ville américaine qui n'est pas encore rattachée au territoire des États-Unis et qui vit donc... hors la loi, et le but était de montrer justement l'arrivée progressive de la loi et des États-Unis dans cette ville. Ok, trois saisons plus tard, on y est toujours. Alors c'est vrai que la troisième saison, il y a un fil directeur, c'est le combat entre Hearst, qui est, souvenez-vous, c'est chef d'entreprise, d'entreprise, si on peut dire que les mines d'or sont des entreprises, qui est très capitaliste et qui veut mettre la main sur tout, c'est un peu les grands groupes industriels avant l'heure. Donc c'est le combat entre Hearst et tous les autres, parce qu'évidemment, il veut non seulement réguler l'économie, mais il veut faire la loi dans Deadwood, et ça n'arrange évidemment pas ceux qui faisaient la loi avant, j'ai nommé Al, Sight Oliver ou Seth Bullock. Donc ça, c'est le fil directeur. Et il y a des choses intéressantes, je dois l'avouer. Le personnage de Martha, qui est la femme de Seth, enfin a des choses à dire et des choses à faire, parce que jusque-là, bon, il y a cette troupe de théâtre qui arrive avec des personnages un peu rigolos quand même.
Mais c'est vrai que cette troupe de théâtre, on se demande un peu où ils veulent en venir. À la fin de la saison, on ne sait toujours pas.
Il y a un truc qui se passe avec une femme qui habite dans une chambre de l'hôtel. On ne sait pas qui elle est. On ne sait pas si elle est actrice ou pas. On ne sait pas pourquoi les autres l'aiment pas. Il y a un acteur qui est mourant. On ne sait pas qui c'est. On ne connaît même pas son nom. On ne sait pas pourquoi ça les affecte à ce point-là. Enfin, c'est assez bizarre. Quand même. Ouais. Maintenant, ces troupes de théâtre amènent quelques moments assez rigolos, notamment la soirée où ils demandent à tous les habitants des Deadwood de venir faire eux-mêmes le spectacle. Ça, je trouve ça assez rigolo.
Ça amène un peu de fraîcheur parce que c'est vrai que la série est très dure.
Et alors, je trouve aussi, par exemple, que Tante Lou, qui est la cuisinière noire que George Hearst fait venir, est assez rigolote, surtout quand elle parle avec Richardson. Richardson, cette espèce de débile profond qui seconde Farnum à l'hôtel, le type qui idolâtre une tête de cerf et qui pense que c'est Dieu.
C'est enfin un peu de couleur dans la série, puisqu'on était resté...
Tu parles de Tante Lou, là.
Ouais, on était resté quand même au blanc.
En effet, et en plus, elle est assez rigolote, donc c'est pas plus mal.
C'est un personnage très attachant. J'avais pas encore connu de personnage aussi attachant dans la série, je trouve.
Moi, j'aime bien Jane et Joanie, quand même, je dois
avouer. Oui, tout à fait, mais je veux dire aussi mère poule, je dirais.
Oui, c'est vrai. À part ces moments que je trouve très chouettes, on a quand même des personnages très opaques. Alma, elle se trouve enfin avec un gars qu'elle semble apprécier, mais ne lui dit jamais, donc il la quitte. Elle était sortie de la drogue. Elle devient quand même la personne la plus riche, elle fonde une banque, etc. Elle retombe dans la drogue, on sait même pas quand, parce qu'en fait, il y a juste un moment où on se rend compte qu'elle est toujours dans la drogue.
Et puis après, elle arrête de nouveau. Donc
et puis elle arrête de nouveau, et puis elle ne veut absolument pas vendre sa parcelle à Hearst, mais on voit pas bien pourquoi, parce que finalement, elle semble beaucoup mieux s'amuser à la banque, donc pourquoi est-ce qu'elle ne vend pas ? Enfin, on comprend rien du tout. Saïd Oliver, il est alité, puis plus alité, puis de nouveau réalité. Il aime Joanie, il aime plus Joanie, il aime de nouveau Joanie. Enfin, il y a un moment où on se dit, mais enfin, c'est quoi ces girouettes ? On a aussi Wyatt Earp qui passe très rapidement. Vous voyez, le shérif légendaire. Il arrive, il fout un peu la merde, il s'en va. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et alors, je vous parlais de tous ces personnages dont on comprend pas très bien pour la troupe de théâtre notamment. Donc finalement, et les autres restent égaux à eux-mêmes. Donc c'est même pas dire que Sol ou Trixie ou Al amènent quelque chose de neuf, parce que Sol est toujours en retrait, Al dirige toujours comme il veut, Farnum manigance tant qu'il peut, Cochrane soigne les gens et c'est tout, Trixie n'arrête pas de râler, Seth comme d'habitude en rage, Jane boit et Charlie fait tapisserie. Donc finalement, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette troisième saison ? Quelle est la motivation ? Que veulent tous ces personnages, vers quoi on va, on a l'impression finalement que cette série n'a jamais commencé et qu'on est toujours dans la première saison. Bon, elle se termine quand même sur les résultats des élections, donc là on se dit qu'il va falloir que ça bouge un peu parce que les États-Unis donc vont arriver puisqu'on a mis en place des autorités. Et donc là on se dit, ben voilà, enfin la quatrième saison va peut-être nous amener quelque chose et malheureusement il n'y aura pas de quatrième saison. Ça fait quand même trois saisons qu'on regarde la même chose. Alors pour un gars comme David Mills, ça commence à bien faire, franchement.
Ouais,
bon, toi t'aimais bien.
Moi j'aimais bien, mais bon, c'est vrai que tu m'as ouvert les yeux quand même. Mais j'ai pas beaucoup aimé les deux premières saisons, mais la troisième, je l'ai trouvée plus intéressante, notamment grâce à cette lutte intestine entre Hearst et les autres. Mais c'est vrai que on attend qu'il se passe quelque chose du début à la fin de la saison, et finalement, il se passe pas grand-chose.
Mais parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui me trompe, parce que quand je vais lire les critiques sur Internet, tout le monde trouve que c'est une série vachement géniale. Mais tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit que le langage est génial, avec le mélange du langage shakespearien, victorien et des jurons. Les décors sont bien faits, c'est quand même une chouette idée, mais on dit ça depuis la première saison, donc je trouve pas d'argument non plus, quoi. Donc bon, voilà, je me pose la question. Maintenant, s'il y a des auditeurs qui trouvent que je me trompe lamentablement, je serais très heureuse de recevoir des mails avec des bons arguments en faveur de cette série.
Voilà. Allez, c'est dit.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.